Radio Prague, les informations.
Fin du sommet de l'Union européenne sans déclaration sur le 50e anniversaire. Un drapeau pour le Tibet. Et la radio tchèque bénéficie du plus de confiance des auditeurs. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne quittent le sommet de Bruxelles sans avoir reçu le texte de la déclaration qui devrait être adoptée dans 15 jours à l'occasion du 50e anniversaire de l'Union à Berlin. D'après le Premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, le texte devrait être disponible la semaine prochaine ou plus tard encore. Les pays membres sont pour que la déclaration ne concerne pas l'avenir de la Constitution européenne, mais seulement la célébration du 50e anniversaire. Comme tous les ans, le monde démocratique participe à l'action Un drapeau pour le Tibet, qui rappelle le soulèvement du peuple tibétain contre l'occupation chinoise. En Tchéquie, un grand nombre de municipalités a hissé le drapeau du Tibet, et parmi les institutions officielles, aussi le ministère de l'Environnement et le siège de la ministre sans portefeuille Jamila Sterlikova, tous deux dirigés par des représentants du Parti des Verts, membres de la coalition gouvernementale. Sur l'initiative de ce parti, un groupe des Amis du Tibet est en train de se former à la Chambre des députés. Seuls les communistes ont refusé de s'y joindre. Selon un sondage organisé pour la 7e fois par la société Reader's Digest, la radio tchèque est la radio qui bénéficie de la plus grande confiance des auditeurs et a remporté la bonne marque de l'année, un prix décerné par cette société. La radio tchèque a donc battu tous ses concurrents traditionnels, Europe 2, Radio Impulse ou Fréquence 1. Les représentants de la radio tchèque, lors de la cérémonie de remise des prix, ont remercié les lecteurs de Reader's Digest, les assurant que cette distinction représentait aussi un grand engagement. Les États membres de l'Union européenne ont adopté, lors du sommet de Bruxelles aussi, un plan ambitieux concernant l'énergétique. D'ici à 2020, les pays membres devraient augmenter la part des sources renouvelables d'énergie dans leurs systèmes énergétiques pour atteindre 20%. Le Premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, a déclaré que la Tchéquie est d'accord, mais seulement parce que le projet tient compte de la situation dans les différents pays. Les Nigériens tchèques, CESA, viennent de recevoir un nouvel Airbus A319. Cette année, CESA recevra deux Airbus A319. D'ici à la fin de l'année 2008, encore quatre appareils du même type. Les Airbus seront surtout en service sur les lignes européennes et remplaceront les Boeing 737-500 devenus obsolètes. Cette année encore, les CESA prendront livraison de trois nouveaux Airbus 320. L'État et l'Église devraient arriver à un accord en ce qui concerne l'administration de la cathédrale Saint-Guy au château de Prague. Après les dernières négociations, un accord semble possible et les différents bâtiments qui avaient été pour un temps remis à l'Église redeviendront la propriété de l'État, cela sur la base d'un jugement. Cela concerne aussi la cathédrale Saint-Guy, le plus important sanctuaire de la République tchèque. Les sondages révèlent que si des législatives avaient lieu au mois de février, donc quelque temps après l'entrée en fonction d'un gouvernement de centre-droite en Tchéquie, ce serait le leader de la coalition gouvernementale actuelle, le Parti civique démocrate, qui les remporterait avec une importante avance, plus de 40%. Enfin, la météo, qui nous annonce un assez beau week-end avec des températures dépassant les 10 degrés, pas de précipitation par perspective, un peu de brouillard matinaux et attention quand même à des verglas locaux, surtout dans les régions montagneuses. Le printemps s'annonce donc après un hiver le plus chaud depuis très longtemps et bonne fête le 10 mars au Viktoria, d'après le calendrier tchèque. C'était les informations par Alain Slivinski. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Magdalena Hrozinková.
Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de Radio Prague. Le ministre de l'Environnement, Martin Bursik, a hissé le drapeau tibétain devant le bâtiment de son ministère. C'est pour la première fois qu'une institution gouvernementale se joint à la manifestation Un drapeau pour le Tibet. Nous vous en dirons plus. La Cour constitutionnelle tchèque a autorisé les communes à réguler la prostitution sur leur territoire. Les explications dans quelques minutes. La collaboration de chercheurs tchèques et belges pour de nouveaux médicaments sera un autre thème de ce magazine d'actualité, dans lequel nous évoquerons également le concours de l'Eurovision, auquel un chanteur ou une chanteuse tchèque prendra part. Ce représentant sera choisi samedi à l'issue d'un concours organisé par la télévision tchèque. Malgré Malgré les protestations de l'ambassade chinoise, le ministre de l'Environnement et chef du Parti des Verts, Martin Bursik, a hissé le drapeau tibétain devant le siège de son ministère. C'est pour la première fois qu'une institution gouvernementale tchèque se joint à la campagne mondiale « Un drapeau pour le Tibet », commémorant les 80 000 victimes de la répression du soulèvement du peuple tibétain à Lhasa le 10 mars 1959. Yarkagi Sublova.
L'année dernière, 286 communes et villes tchèques avaient hissé le drapeau bleu et rouge avec au sommet le soleil illuminant toutes les directions. Cette année, elles seront 318 et pour la première fois, la campagne est soutenue par un représentant du gouvernement. Le ministre de l'Environnement, Martin Bursik, a hissé ce symbole du respect des droits de l'homme dès vendredi matin au fronton du siège de son ministère. Selon lui, assumer sa responsabilité vis-à-vis de la violation des droits de l'homme est parfaitement dans la ligne de la politique étrangère de République tchèque. Son initiative a suscité des protestations de l'ambassade de Chine à Prague, qui déjà l'année dernière avait invité les mairies des communes concernées à ne pas s'y mixer dans les affaires internes de la Chine. Ce vendredi, le porte-parole de l'ambassade chinoise a déclaré au quotidien Hospodarské noviny envisager une protestation officielle auprès du gouvernement tchèque. Le ministère des Affaires étrangères, qui a accueilli avec compréhension l'initiative du ministre Bursik, vient de publier une prise de position officielle soulignant que la République tchèque ne conteste pas la souveraineté chinoise sur le Tibet. L'attitude des gouvernements tchèques précédents avait été également plutôt prudente, car la Chine est un important partenaire commercial de la République tchèque. Le président Václav Klaus a visité la Chine et mené des négociations avec le chef du gouvernement chinois à Prague. Par contre, son prédécesseur Václav Havel ne s'y est jamais rendu en signe de protestation contre la violation des droits de l'homme. La campagne mondiale Un drapeau pour le Tibet se déroule en Tchéquie depuis 1996. À part les 318 mairies qui s'y rallient, d'autres actions et événements sont organisés en signe de solidarité avec le peuple tibétain, dont un concert « Le Tibet vit » donné au Rock Café à Prague. Son sens est de soutenir un journal édité en Inde par le Centre d'enseignement de la jeunesse exilée pour unifier les Tibétains en exil, a dit à Radio Prague Romana Loušová.
Le journal est publié à 1000 exemplaires dont l'unité coûte 10 centimes d'euros et pourtant la rédaction connaît des difficultés énormes. C'est pour cela que nous avons décidé de donner un concert de bienfaisance. Ces recettes, bien qu'elles ne soient pas très élevées, seront changées par les exilés tibétains en une valeur incomparablement plus grande.
Nám tady podaří vybrat byť malou částku, tak oni to tam promění v poměrně velké hodnoty.
Les autorités municipales peuvent prendre des mesures restreignant la prostitution sur leur territoire. C'est le sens de la décision rendue par la Cour constitutionnelle tchèque ce jeudi. Des explications sur cette nouvelle jurisprudence importante dans le pays avec Alexis Rosenzweig.
Cet arrêt de la Cour constitutionnelle de Brno pourrait contribuer à changer l'ambiance qui règne dans certaines villes ou villages le long des frontières. C'est le constat dressé vendredi en première page par le quotidien Lidové Noviny le lendemain de la décision. La Cour constitutionnelle devait statuer sur la validité d'arrêtés municipaux pris par les autorités de la ville d'Ústí nad Labem en Bohême du Nord, arrêtés visant non seulement à interdire la prostitution dans les espaces publics, mais aussi à réduire la mendicité et les manifestations bruyantes. Le juge constitutionnel a annulé ces deux derniers, mais a considéré que le premier concernant la prostitution était conforme à la loi fondamentale. Conséquence, les autorités des villes et communes du pays peuvent prendre elles-mêmes la décision d'interdire la prostitution, en tout cas dans les rues et tout espace public. Les maires des villes défigurées par le tourisme sexuel aux frontières autrichiennes et allemandes se sont félicités de cette décision. À Prague, le secrétaire du maire, Rudolf Blažek, a indiqué que la capitale l'accueillait très favorablement. Mais il souligne aussi qu'il faut plus que la possibilité de prendre des arrêtés municipaux. Il manque une loi, dit Rudolf Blažek, qui permettrait de définir exactement ce qu'est la prostitution pour réellement permettre de la réguler. Et la dernière fois qu'un gouvernement a tenté de faire passer une loi visant à réguler le plus vieux métier du monde, c'était à l'automne 2005, un projet de loi que les députés avaient finalement rejeté.
La faculté de médecine de l'université Charles à Prague a remis jeudi le titre de docteur honoris causa à Eric De Clercq, un professeur belge à l'université catholique de Louvain en sciences biologiques et médicales. Eric De Clercq collabora depuis désormais plus de 30 ans avec des chercheurs tchèques en physique pour le développement de médicaments. Il vous en dira plus sur cette fructueuse collaboration, propos recueillis par Guillaume Narguet.
Les débuts étaient, disons, assez en mineur. C'était il y a 31 ans que je travaille donc en collaboration avec le docteur Hawley, Anthony Hawley. Et on a commencé donc sur les antiviraux. Ça veut dire que la synthèse chimique, la chimie, est faite ici à Prague, dans l'institut qui s'appelle IOCB, Institut Organic Chemistry et Biochemistry. Et puis l'évaluation biologique antivirale est faite chez nous, l'Institut Rega, qui est situé à Louvain, en effet à Leuven. Donc au début, c'était donc une collaboration, comme j'avais dit, déjà en mineur, mais ça s'est développé de plus en plus. Alors les produits que nous avons découverts ont donc trouvé une application dans l'industrie. Et nous avons eu donc l'opportunité de travailler ensemble avec ce qui s'appelle Gilead Sciences. C'est une firme pharmaceutique. À l'époque, c'était donc de biotech. Maintenant, c'est devenu vraiment une industrie pharmaceutique et donc basée sur les produits que nous avons donc donné en licence. Et c'est donc, en effet, ça s'est devenu une collaboration entre trois entités, donc la chimie qui s'est faite à Prague, la biologie médicale aussi qui s'est faite à Leuven, et puis donc l'application industrielle qui est faite par les Américains. Donc ça veut dire que le monde a la perception que ces produits sont découverts en Amérique. En effet, ils sont découverts ici, en Tchèque République, en collaboration avec Leuven, donc en Belgique. Donc c'est vraiment, ce sont des produits européens dont les Américains ont maintenant donc la réputation d'être les auteurs ou les inventeurs.
Concrètement, quels sont les produits que vous êtes parvenus à développer?
Ce sont des produits donc dont le nom de famille, mais ça c'est très chimique, s'appelle les phosphonates. Et qu'est-ce que c'est, donc, en termes très simplifiés, bien sûr? Donc, les phosphonates sont des analogues à ce qu'on appelle les phosphates. Et les phosphates, ça forme un peu le vertèbre, la colonne vertébrale de ces molécules. Et ça, c'est important parce que ça, c'est aussi un élément dans les acides nucléiques qui donc, forment aussi la base des virus. Donc, l'invention de notre côté, c'est que les produits que nous avons donc inventés ont une action antivirale parce qu'ils mimiquent donc ce qui se produit dans l'RNA des virus. Et aussi l'RNA des rétrovirus, comme le virus du sida, mais aussi donc les virus à ADN. Et ça explique pourquoi ce que ces produits qui mimiquent ce qui est essentiel pour la composition des virus, c'est que ces produits donc vont tromper les virus et donc vont développer une activité antivirale. Donc le produit principal, c'est donc appelé Viriat, c'est actif contre le sida, et ça c'est maintenant disponible sous trois forme, donc telle quelle, ça s'appelle le Viriat, combiné avec Mtriva, ça s'appelle Truvada, et alors combiné avec Mtriva et Evavirens, Sustiva, ça s'appelle Atripla. Donc il y a trois formes pharmaceutiques d'un seul produit. Et ça, le dernier, c'est maintenant le produit qui est certainement un des plus efficaces pour le traitement du sida.
C'était Eric De Clercq, professeur à l'Université catholique de Louvain, au micro de Guillaume Larguet. La République tchèque n'a pas échappé à la déferlante de concours musicaux à la télévision. Comme dans la plupart des autres pays, Českohleda Superstar, l'équivalent de la Nouvelle Star, a connu un véritable triomphe. Aujourd'hui, pour la première fois, le pays s'apprête à présenter un candidat au concours de l'Eurovision. Parallèlement, une compétition Českohleda Písničku, la Tchéquie cherche une chanson, a pour objectif de révéler au public tchèque une nouvelle génération de chanteurs-compositeurs. Anne-Claire Veluir.
Old in us smoking me a blank something.
Trägt schon die Stadt ihr Abendkleid, ein Licht mehr in der Dunkelheit. Die große Einsamkeit.
Ce ne sont pas sous les couleurs tchécoslovaques mais sous celles de l'Autriche que le seul Tchèque ayant jamais participé à l'Eurovision s'était présenté à Londres en 1968. Il s'agissait du célèbre chanteur populaire Karel Gott qui avait terminé à la 4e place de la compétition. Depuis le 23 février, où la télévision publique a lancé l'émission Eurosong, le public tchèque peut choisir, en envoyant des SMS, quel sera le premier représentant tchèque pour cet événement suivi chaque année par des millions de téléspectateurs. 10 candidats ont déjà été présélectionnés. Tous ne sont pas des figures connues, comme le rappeur rom Gypsy, qui connaît quand même un succès grandissant depuis quelques années. Samer Issa, ancien participant de la Nouvelle Star tchèque, est en revanche connu du large public. Il se féliciterait de pouvoir représenter la République tchèque dans le concours de l'Eurovision.
Pro mě je to velká příležitost jakoby ukázat lidem vlastně jako co teď obnáší jakoby.
Je participe au concours parce que c'est une grande occasion pour moi de montrer aux gens mon nouveau répertoire. Le show dont je fais partie est très varié, les danseurs, tout le monde peut manifester son propre style. Je veux que ce que je représente soit gai et joyeux pour que le public puisse se sentir bien.
Le vainqueur de la compétition tchèque pour l'Eurovision sera connu ce samedi 10 mars. La télévision tchèque va mettre tous ses moyens en œuvre pour que cette soirée soit un succès en espérant organiser la prochaine édition de l'Eurovision en cas de victoire tchèque à Helsinki. Dans un tout autre registre, le concours Českohleda Písničku, la Tchéquie cherche une chanson, a commencé jeudi 22 février au Théâtre Gong dans le 9e arrondissement de Prague. L'objectif est de promouvoir la chanson tchèque et de renouer avec cette tradition en présentant de nouveaux talents qui doivent être également les auteurs et compositeurs des chansons qu'ils interpréteront. Le jury est d'ailleurs composé de chanteurs folk comme Ivan Hlas, de producteurs ou de journalistes spécialisés. Surtout, il est dirigé par Jiří Dědeček, président du Pen Club et traducteur tchèque des chansons de Brel et de Brassens.
Chanson de Samer Issa à la fin des faits et événements en République tchèque. Tout de suite, le magazine économique sur Radio Prague.
Économie, commerce.
Un système de rails et de signaux compatible avec celui de ses voisins. C'est ce qu'attend le secteur ferroviaire tchèque pour pouvoir enfin se mettre sur les rails du commerce. Grand délaissé des modernisations, le réseau tchèque n'est pas assez compétitif. Concrètement, cela se traduit par des pertes de plusieurs milliers de couronnes par semaine. Il faudra encore attendre quelques années avant une compatibilité complète avec les pays frontaliers. Pour cause d'incompatibilité électrique, la République tchèque n'est pas encore reliée à ses voisins par des liaisons ferroviaires directes. Pour traverser la frontière tchèque, les marchandises doivent également obligatoirement changer de train. Au-delà du simple désagrément, cette situation cause de sévères pertes à l'industrie ferroviaire tchèque. Les trains de fret passent plus volontiers vers l'Autriche, voire la Pologne, que par la République tchèque. Sur la ligne Hambourg-Budapest, par exemple, le pays perdrait chaque semaine 1 million de couronnes. Effectuant un détour, les trains de fret passent plutôt par l'Allemagne du Sud et par l'Autriche. On peut encore ajouter 1,5 million de couronnes pour la ligne reliant la Slovaquie aux Pays-Bas. Le système électrique est le même en Allemagne et en Autriche et les changements ne sont pas nécessaires entre ces deux pays. Un élément à prendre particulièrement en compte lors du transport de marchandises lourdes, par exemple. Ce problème crucial ne se pose bien évidemment pas aux camions, pour qui les frontières ne signifient plus grand-chose et dont le commerce du transport se développe en République tchèque aux dépens de celui des trains et de České dráhy, la compagnie nationale ferroviaire. En cause, dans cette absence d'uniformisation du réseau ferroviaire européen, les politiques menées ces dernières décennies au niveau de chaque pays, de chaque État membre et sans aucune consultation réciproque. La République tchèque dispose en Europe de la deuxième densité en termes de réseau ferroviaire, et ce, après la Suisse. Une grande partie de l'équipement ne rentre cependant pas en adéquation avec les standards européens. Avouons-le, cela peut avoir son charme parfois. Il est souvent pittoresque de voyager en train dans le pays, les locomotives modernes construites par Siemens ou Alstom côtoyant de véritables pièces de musée des années 50. Pour l'efficacité, en termes de rapidité, cela peut être une toute autre histoire. Il existe bien des lignes rapides, mais elles ne couvrent que partiellement le pays. De nombreux trains tchèques n'en utilisent pas moins les puissants moteurs d'AC électricité. De 1993 à 2004, la quantité des transports de fret par voie ferroviaire a baissé de 40% en République tchèque, et ce au profit du transport routier, reflétant par ailleurs une certaine tendance européenne. 2003 a marqué un début de reprise, et l'année dernière, le transport ferroviaire a augmenté de 7%. La modernisation complète des voies et équipements tchèques devrait être réalisée d'ici 5 ans, avec à la clé un système de navigation unique, le GSM-R. Les coûts de cette refonte totale se chiffrent en milliards de couronnes. Une grande partie devrait être subventionnée par les fonds de développement européens. Par ailleurs, Jaroslav Souchek, directeur de la section ferroviaire du ministère, a annoncé que la République tchèque adopterait le système unique de signalisation dès que l'Union européenne mettra celui-ci en place. Rappelons que le projet est actuellement à l'étude au sein de l'Agence ferroviaire européenne. Janvier 2007 a déjà vu un premier changement concret dans le paysage ferroviaire européen, l'ouverture totale des marchés nationaux de transport. Rappelons que la République tchèque joue un rôle pionnier en Europe en séparant la propriété des lignes ferroviaires de celle des trains détenues par la compagnie nationale. Depuis quelques années, le nombre d'opérateurs privés de lignes a vite augmenté, atteignant aujourd'hui 18 entités. La compagnie nationale de train n'en conserve pas moins une position dominante sur le marché tchèque. Simrail, un opérateur privé, devait ouvrir en novembre dernier une ligne rapide entre Prague et Ostrava, en Moravie, avec des locomotives Siemens. L'ouverture de la ligne a été repoussée à l'été prochain. L'assurance de sécurité est en effet primordiale. Il faut par exemple s'assurer de la non-interférence des signaux avec les trains. si les réactualisations du système tchèque sont programmées, elles ne devraient pas se réaliser avant un certain temps. Dès aujourd'hui, cependant, des trains modernes peuvent bien sûr circuler à travers le pays et le marché tchèque peut s'adapter rapidement aux nouveaux standards. La reprise se confirmera sans doute dans les prochaines années. Pour mémoire, rappelons que la première ligne de chemin de fer en Europe fut créée en Bohême. Et oui, et c'était la ligne reliant České Budějovice à Linz, en Autriche, ouverte en 1832. C'est grâce aux forges de Fürstenberg, particulièrement rentables, que cette innovation fut possible. En 1836, une autre ligne devait relier Vienne aux mines de fer et de charbon de la Moravie du Nord. Et c'est la fin de cette rubrique économique préparée aujourd'hui par David Allon et lue par Alexis Rosenzweig. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'oubliez pas que pour écouter cette émission ou une autre de Radio Prague, c'est sur internet au www.radio.cz. Pour nous écrire, notre adresse email est le français@radio.cz, français sans cédille, @radio.cz. Je vous souhaite un excellent week-end sur Radio Prague ou à l'extérieur.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at